Trouvez-vous que j'ai l'air déchargé? Hein? J'ai tout déchargé ça sur Marc. Et Cheryl, oui. Alors, ça fait plaisir de reprendre la parole dans un autre rôle et puis vous apporter ce que le Seigneur m'a mis sur mon cœur cette semaine. C'est le premier jour de l'année. Incroyable, hein? Premier jour, une nouvelle année, une belle année qui se... De quoi ça va être rempli cette année-là? C'est quoi la part de Dieu? C'est quoi ma part là-dedans? De quoi va être rempli 2017? Quelle est ma part? Quelle est la part de Dieu? Qu'est-ce qui appartient à Dieu? Qu'est-ce qui m'appartient? Et j'ai choisi un épisode dans Actes 12. Et il y a une mauvaise nouvelle qui... ça commence mal. On peut avancer? Vers la même époque, le roi Hérode se mit à maltraiter quelques membres de l'Église à Jérusalem et fit couper la tête à Jacques. Commence pas bien. Le frère de Jean. Quand il s'aperçut que cela plaisait aux Juifs et qu'il gagnait leur faveur, il donna aussi l'ordre d'arrêter Pierre. C'était pendant les jours des pains sans levain, avant la fête de Pâques. Alors, Jacques, il meurt décapité. C'était la punition que le Sanhédrin voulait que l'on fasse à ceux qui apostasiaient la foi, qui quittaient la religion, on les décapitait. Alors, les Juifs se frottaient les mains, Hérode aussi, parce que ça lui donnait du pouvoir. Il allait maîtriser cette race-là qui était insoumise à Rome. Et là, il gagnait la faveur des Juifs, même un peu plus tard, si à la fin du verset, vous irez voir, mais... Hérode, il fait un discours, puis les Juifs disent « Voix d'un Dieu et non d'un homme. » Et ça va causer sa mort, la mort d'Hérode. Alors, vraiment, c'est tout le contexte derrière ça. Et Jacques, c'était le frère de Jean. Même arrière-plan, ils viennent de la même famille, ils ont accepté le Seigneur ensemble, ils ont été nommés, choisis comme apôtres ensemble. Ils étaient dans le trio là, principal, Jacques, Jean et Pierre. C'était les trois qui étaient, on peut dire, toujours avec Jésus dans leurs actions. Alors, vraiment deux frères, mais deux destinées différentes. Jacques va être le premier à mourir et Jean, le dernier à mourir, dernier apôtre à mourir. Alors, pourquoi est-ce que Dieu n'a pas sauvé Jacques? Il l'a gardé en vie. Pourquoi est-ce que Dieu n'a pas sauvé Jacques? C'était un de ses intimes, là, qui avait passé là, 3 ans et demi avec lui intimement. Il l'avait préparé pour la mission. Et quelques mois après, Jacques, il se fait enlever la vie, se fait décapiter à cause de sa foi. Bonne question. Alors... J'espère que ça va marcher. Oui! Hein? En 2016, l'année qui vient de se terminer, un chrétien est mort pour sa foi toutes les 6 minutes. Alors, depuis qu'on est arrivé ici, il y a 6 fois 8, 48, il y a 8 chrétiens dans le monde qui sont morts. Ils représentent l'un des groupes religieux les plus persécutés au monde. Il y a eu 90 000 chrétiens qui ont été tués pour leur foi cette année. Ce qui correspond à une moyenne d'un mort pour toutes les 6 minutes. On pourrait dire 10 chrétiens à l'heure qui meurent pour leur foi. Et il y a 500 000 000 de chrétiens qui seraient par ailleurs privés de la liberté d'exprimer leur foi dans le monde. Est-ce qu'on est privilégié? Alors... pourquoi est-ce que Dieu n'a pas sauvé Jacques? Pourquoi est-ce que Dieu ne sauve pas tous ces chrétiens-là qui meurent? les 8 chrétiens qui viennent de mourir, là, dans l'heure qui vient de se passer. Est-ce que c'est l'Église qui n'a pas prié assez? Qui a manqué à son devoir? Est-ce que Jacques était moins important que son frère Jean? Est-ce que Dieu aimait plus Jean que Jacques? Jacques a un mauvais caractère, hein? Vous savez, c'est quoi son surnom? Boanerges, fils du tonnerre. Hein? Il avait, peut-être qu'il n'avait pas le bon caractère pour être apôtre. On peut se poser toutes sortes de questions. Une question de perspective, parce que c'est sûr que d'un point de vue humain, purement humain, là, pourquoi est-ce qu'il y en a un qui meurt, puis pas l'autre? Vraiment un mystère, je n'ai pas de réponse à ça. Mais d'un point de vue chrétien, d'un point de vue spirituel, Paul, il va dire, la mort est un gain. Alors, c'est qui le chanceux, là, les deux? Jacques et Jean, avec leur mère, sont allés voir Jésus. Et qu'est-ce qu'ils ont demandé à Jésus? Est-ce qu'on pourrait être assis à ta droite lorsque tu vas venir dans ta gloire, dans ton règne? Bien, Jacques a eu sa prière exaucée le plus rapidement possible. Hein? Tout de suite, il est entré dans la gloire avec Jésus. Sa prière a été exaucée très vite. Et Jean, lui, le pauvre Jean, bien, il est resté sur terre. Alors, ça dépend de la perspective. Hein? Pourquoi Jacques meurt tout de suite? Pourquoi Jean va mourir dans les 90 ans, peut-être? Alors, si on a le choix, si vous aviez le choix, là, est-ce que vous aimeriez donner votre vie au Seigneur en une shot, en un coup, en une fois? Jacques a donné sa vie au Seigneur en un coup. Jean a donné sa vie au Seigneur pendant, jour après jour, pendant des années. Alors là, je pense que la réponse à la question, c'est, ou ma responsabilité dans ça, c'est de donner ma vie. De donner ma vie. Le reste, ça ne m'appartient pas. Qu'est-ce qui appartient à Dieu? Qu'est-ce qui m'appartient? Bien, il y a un pasteur cette année, Joachim, à Farnham. L'an passé, à pareille date, il était à ma place, il est en train de prêcher à son église. Et puis le Seigneur, un jeune pasteur, là, dans la cinquantaine, il est parti comme ça. Alors, pas d'explication. Comment ça se fait que le Seigneur vient chercher telle personne, puis pas l'autre? Ça appartient à Dieu. Qu'est-ce qui m'appartient? Qu'est-ce qui nous appartient? Comment est-ce que je vais donner ma vie en 2017? Comment je vais donner ma vie en 2017? J'ai fait ça toute ma vie. Hein? Puis là, c'est nouveau. Je ne suis plus pasteur principal, mais ça veut dire quoi pour moi? Ça veut dire quoi pour moi, un pasteur à la retraite? Hein? Et il y a quelque chose qui m'appartient là-dedans, puis il y a quelque chose qui appartient au Seigneur. Le Seigneur, ma prière, Seigneur, ouvre des portes, et avec les forces qui me restent, avec ce que j'ai, comment est-ce que je peux contribuer, continuer à donner ma vie au Seigneur? Avec Lise, on a fait ça toute notre vie. Seigneur, je ne sais pas où je vais être l'an prochain. Est-ce que c'est moi qui vais partir le premier? Je ne sais pas. Hein? Est-ce qu'il y a quelqu'un d'entre nous qui va partir cette année? Jeune ou vieux, peu importe. On ne sait pas, ça ne nous appartient pas. Qu'est-ce qui nous appartient? Comment je vais vivre cette année, aujourd'hui? Comment je vais vivre la journée? Comment je vais vivre jour après jour? Je vais donner ma vie au Seigneur. Alors, c'est quoi pour toi donner ta vie? J'ai préparé un petit sketch. J'ai besoin de 7-8 acteurs, là. J'en ai choisi quelques-uns. J'ai besoin de soldats. Philippe, hein? Jean-Claude? David? Et puis, peut-être Mathieu, hein? Alors, ça, c'est les 4 soldats. On va faire un petit briefing pendant que vous allez vous saluer, mais là, j'ai besoin d'une jeune servante. Une jeune servante. Rien. Lauriane, j'ai besoin de l'apôtre Pierre. Il est où, Marc? Marc, il est là.
On est pas mal plus petit que...
Ouais. Vous êtes entre bonnes mains. J'ai besoin d'un ange. Est-ce qu'il y a un ange parmi nous? Pas d'ange. Oh, un ange. OK. Fait que vous allez prendre une ou deux minutes, vous allez vous saluer, hein, vous souhaiter bonne année. Et moi, je vais faire un petit briefing avec les membres du sketch. OK? On improvise. C'est de l'improvisation. Alors? On peut revenir ensemble? Alors, c'est textuellement, ce qu'on va lire, c'est acte 12. Et les acteurs, ils vont mimer, puis ils peuvent improviser aussi sur ce qui s'est réellement passé. Ouais. Ouais. Alors, vers la même époque, le roi Hérode se mit à maltraiter quelques membres de l'Église de Jérusalem. Il fit couper la tête de Jacques, le frère de Jean. Quand il s'aperçut que cela plaisait aux Juifs et qu'il gagnait leur faveur, il donna aussi l'ordre d'arrêter Pierre. C'était pendant les jours des pains sans levain, avant la fête de Pâques. Lorsqu'ils se furent saisis de lui, il le fit mettre en prison et le plaça sous la garde de 4 escouades de 4 soldats. Il avait l'intention, après la Pâque, de le faire comparaître devant tout le peuple pour le juger et le faire exécuter. Pendant que Pierre était étroitement surveillé dans la prison, l'Église ne cessait de faire monter vers Dieu d'instants de prière en sa faveur. C'était la nuit. Le lendemain, Hérode devait le juger puis le faire conduire au supplice. Pierre dormait, couché entre 2 soldats auxquels il était lié par une double chaîne. Devant la porte de la prison, les sentinelles montaient la garde. Tout à coup, un ange du Seigneur apparut, inondant la cellule d'une vive lumière. L'ange secoua Pierre pour le réveiller. Secoua. Le secoua.
Debout.
OK. Debout. Au même instant, les chaînes tombèrent. Pierre le suivit et sortit sans se rendre compte que tout ce que l'ange lui faisait faire était réel. Il croyait avoir une vision. Ils passèrent devant le premier poste de garde. Puis le deuxième. Ils arrivèrent devant la porte de fer qui donnait sur la rue. Elle s'ouvrit toute seule et les voilà dehors. L'ange accompagna Pierre jusqu'au bout de la rue, puis il disparut. Alors seulement, il disparut. L'ange disparut. L'ange accompagna Pierre jusqu'au bout de la rue, puis il disparut. Alors seulement, Pierre reprit ses esprits et se rendit compte de ce qui venait de lui arriver.
Pas
je comprends. C'est le Seigneur qui a envoyé son ange et m'a arraché des mains d'Hérode. Il m'a fait échapper au sort des Juifs qui étaient impatients de me faire subir leur punition.
Il se mit à réfléchir et, bien conscient cette fois, se dirigea vers la maison de Marie, la mère de Jean surnommée Marc. Un assez grand nombre de frères étaient réunis pour prier. Il frappa au battant du portail extérieur. Une jeune servante appelée Hérode y alla et demanda:
c'est moi, Pierre!
C'est mon père.
À peine eut-elle reconnu la voix de Pierre que, dans sa joie, elle se précipita à l'intérieur, oubliant d'ouvrir le portail, et annonça:
c'est Pierre, il est là dehors, devant la porte.
Et tous ensemble, on dit: tu es folle! Ensemble! Pas très convaincant, là. Vous la regardez. Là. Mais elle n'en démordait pas. Et il y a quelqu'un qui dit: c'est sans doute son ange. OK, quelqu'un de l'Assemblée. Pendant ce temps, Pierre continue à frapper. Ils se décidèrent enfin à ouvrir. Et en effet, c'était bien lui. Ils manifestèrent bruyamment leur surprise. Mais Pierre, d'un geste de la main, leur fit signe de se taire. C'était la nuit quand même, puis il y avait des soldats près de lui, là. Et il se mit à leur raconter comment le Seigneur l'avait fait sortir de prison, puis il conclut. Ensuite, il repartit et se rendit ailleurs. Bravo à nos acteurs. J'avais pas une manette, moi, tantôt. L'ange est parti avec la manette?
Le père de l'ange.
Ah, le père de l'ange est parti. Le père de l'ange. C'est pas dans le texte, hein? Alors, on n'est pas rendu là encore. Comment je fais pour ramener, là? Alors, Jacques est mort, Pierre est arrêté. Il y a un affrontement, là. Il y a des forces en présence. D'un côté, tu as le roi Hérode avec le peuple juif qui voulait sa mort. Tu as 4 escouades de 4 soldats. Il y a 16 soldats qui sont mandatés pour garder Pierre. Hein, il était dangereux. Peut-être qu'il ne voulait pas qu'il se reproduise la même chose que quand Jésus est ressuscité, là. Hein? Jeté en prison, lié avec 2 chaînes, avec 2 soldats dans la prison, couchés avec lui, et 2 soldats à la porte de la prison, puis 2 autres soldats un peu plus loin. Alors, sous très haute surveillance. Et l'Église, qu'est-ce qu'elle faisait pendant ce temps-là? D'un côté, tu as Hérode avec toutes les gardes, et de l'autre côté, tu as qui? L'Église qui est en train de prier. Lequel est le plus fort? Lequel va gagner? Hein? C'est l'Église. Hein? Donc, qui suit? Qu'est-ce que fait Pierre? Ouais, j'essaie de le réveiller, là. OK. Pierre dormait. C'est assez spécial. Hein? Tu as des chaînes aux mains, tu as 2 gardes à côté de toi, tu as 2 gardes à la porte. Le lendemain, tu vas te faire tuer. Ça ne pouvait pas être plus confortable, ça ne pouvait pas être plus rassurant. Il était entre bonnes mains, n'est-ce pas? Imaginez qu'on était à sa place, là. Dans une prison, c'est pas très confortable. Avec deux gardes qui ronflent à côté de toi, je ne sais pas si... Mais Pierre, il dort. C'est quelque chose quand même. Je pense qu'il a appris quelque chose, Pierre. Il a appris à être en paix au milieu de la tempête, n'est-ce pas? Et comment ça se fait qu'il pouvait dormir dans une situation comme celle-là? Comment ça se fait que Pierre a réussi à dormir dans une situation comme ça? J'ai trouvé deux possibilités. Il y en a peut-être d'autres. Mais la première, c'est, je pense que soit qu'il était prêt à mourir, il avait déjà fait son choix, il était prêt à suivre Jacques et mourir martyr le lendemain matin, je pense qu'il était en paix avec ça. Et c'était une belle mort. Ou soit, il y avait une conviction que Dieu allait faire de quoi avec ça. Même si ça n'avait pas de sens, il était convaincu que Dieu allait se servir de cette expérience-là pour faire de quoi de bon avec ça. Hein? Alors, quand on n'y peut rien, là, quand on peut quelque chose, le Seigneur nous demande d'être responsable. Mais quand on n'y peut rien, qu'est-ce que Dieu nous demande? Tu des situations, là, il n'y a rien que tu peux faire. Qu'est-ce que Dieu me demande? Faites connaître à Dieu vos besoins avec prières, des supplications et des actions de grâce, et vous allez dormir en paix. Peut-être que ça ne changera pas tout de suite, mais vous allez avoir la paix de Dieu. Alors, mes frères, mes sœurs, en 2017, il y a des situations qu'on ne peut pas changer. Faisons confiance à Dieu. Y a-t-il bien fait de faire confiance à Dieu? De toute façon, il y aura deux choix devant lui. Ou bien il meurt le lendemain, décapité, mourir pour sa foi. Est-ce qu'on serait prêt? Moi, je serais prêt. Hein? Si Dieu a décidé que c'était terminé pour moi, je suis en paix avec ça. Ou bien, Dieu va faire de quoi avec cette chose-là? Je n'ai pas le contrôle. Donc, je donne le contrôle au Seigneur. La réponse... excusez. Bon. Ah, ça recule, ça avance pas. Ah oui. Alors, on vient de le mimer, si on peut dire. La réponse, c'est quoi? Une lumière dans une cellule, là, à cette époque-là, ça ne doit pas être trop éclairé. Alors, c'est dans les ténèbres, la lumière qui apparaît, un ange qui apparaît. Pierre, qu'est-ce qu'il fait? Il dort dur. C'est intéressant. Qu'est-ce qu'il fait, l'ange? Il est obligé de le brasser pour le réveiller. Il était vraiment dans le coma. Il était, hein? L'ange le frappe au côté pour le réveiller. Puis il lui dit mot à mot. Ça, c'est vraiment drôle, là. Hein? L'ange dit, lève-toi, vite. Hein? Puis en se levant, les chaînes tombent. Ensuite, il dit, mets ta ceinture. Ensuite, il dit, attache tes sandales. Ensuite, il dit, mets ton manteau. Ensuite, il dit, suis-moi dans la... On passe la première porte, on suit la deuxième. Mot à mot, il lui dit quoi faire. Mot à mot. C'est vraiment... Hein? Est-ce que ce serait le fun d'avoir un ange à côté de nous qui nous dit tout le temps quoi faire? Mais est-ce qu'on grandirait? Non. On serait comme des robots, puis on obéit aveuglement. Dieu, c'est pas ça qu'il veut. Qu'est-ce que Dieu veut? Il veut mon cœur. Il ne veut pas qu'on obéisse comme des robots. Il veut mon cœur. Alors, l'ange quitte et Pierre, là, il se met à réfléchir, il se met à penser. Hein? C'est écrit « Revenu à lui ». Est-ce qu'on peut le faire avancer? Parce que là, parce que je ne pèse pas assez longtemps. C'est bon. Alors, il dit, maintenant, je comprends. Il se met à réfléchir. Il est conscient. Puis, il s'en va à la maison de Marie. Alors, Marie, ça, c'était la mère de Marc, celui qui va écrire l'Évangile. un compagnon de Pierre qui va écrire l'Évangile. Donc, un groupe maison. On parle en 2017 là, de retrouver nos groupes maison. À Jérusalem, il y en avait plein. Ils ne pouvaient pas se réunir dans une grande assemblée, mais ils pouvaient être dans un groupe maison. Et il y avait quelqu'un d'influent là, Marie, probablement que Marc était là aussi. Et Pierre décide d'aller là, peut-être c'est à proximité aussi. Et il raconte ce qui lui est arrivé. Est-ce que ça vous est arrivé de voir Dieu agir d'une façon impensable, inimaginable? Au-delà de ce qu'on a pensé ou imaginé. Ça vous est arrivé de dire, « Hey, ça, c'est une manifestation de Dieu. Ça, c'est Dieu qui est intervenu dans ma vie. » Pensez-y, puis tantôt, si on a le temps, on aura un petit temps de partage là-dessus. J'aimerais ça vous entendre. Un moment dans ma vie où Dieu est intervenu, puis c'était tout à fait inespéré, c'était tout à fait... je pourrais écrire un livre là-dessus. Hein? Si ma mémoire me le permet, mais Lise est là. Donc, on aurait de quoi dire, mais on le dira tantôt. Alors, avoir été témoin ou victime d'une intervention divine. Et c'est encore une caricature. Pierre qui obéit comme un petit garçon, lève-toi, mets ta ceinture. Puis, oups, l'ange le quitte. Puis là, il revient à lui. Et... maintenant qu'il est sauvé, utilise tes forces. Maintenant que tu as bénéficié de l'œuvre souveraine de Dieu, maintenant c'est à toi. Vas-y, mon Pierre. L'ange le quitte, il est laissé à lui-même et il décide, il choisit de faire ce qui est bien. Il décide d'aller visiter Marie. Et la caricature continue. La servante, elle s'approche, on l'a vu tantôt. C'est vraiment comique, là. Tu vois mon Pierre qui est en pleine nuit, qui peut-être qu'il y a des soldats qui courent après ou qui, en tout cas, il a peur d'être capturé. Il frappe à la porte, puis il frappe à la porte. Puis là, ils envoient la servante. Rod, c'était probablement sa fonction d'aller accueillir les gens à la porte, mais en pleine nuit. Alors, Pierre, il frappe. Rod, lorsqu'elle entend sa voix, qu'est-ce qu'elle fait? Elle laisse Pierre dehors, puis elle s'en va annoncer la nouvelle à l'église qui était rassemblée, le petit groupe maison. Alors, mon Pierre qui frappe à la porte, puis là, ça s'ostine. Hein? T'es folle, t'as vu un ange, ça se peut pas. L'église est en train de se... est en train de se chicaner, si on peut dire. Puis mon Pierre, il est là à la porte, puis il attend que l'église décide enfin de l'ouvrir. Toute une caricature, je pense que c'est Luc qui écrit qui vraiment il voulait nous montrer comment que c'est fort. Ça se peut-tu qu'on prie pour quelque chose, puis on ne s'attend même pas à ce que Dieu va répondre. Puis quand il le fait, on n'y croit pas. Hein? C'est tout un portrait. On prie. Peu de conviction. Si Dieu ne répondait qu'à nos prières intenses, je pense qu'on ne verrait pas grand-chose. Et dans sa grâce, dans sa miséricorde, Dieu a répondu. Hein? Dieu a répondu. Est-ce que Dieu répond toujours? Oui. Je pense que Corrie Ten Boom a dit, il répond oui, il répond non, puis il répond, Lise, attends. Il répond oui, il répond non, puis il répond attends. Alors, la réponse pour Jacques, c'était non. S'il priait pour qu'il soit sauvé de la mort. La réponse pour Pierre, c'était oui, il est sorti de là. Hein? Et la réponse pour nous, c'est « attends hein? ». Alors, je pense qu'il y a un principe là, qui est bien important. La prière ce n'est pas un moyen pour que Dieu fasse à ma volonté. Je répète, la prière, ce n'est pas un moyen qu'on a entre les mains pour que Dieu fasse ma volonté à moi. Que Dieu soit à notre service. J'ai parlé de ma grand-mère Desrosiers, la mère de ma mère. Elle a prié, puis quand Dieu ne répondait pas à ses prières, elle prenait le crucifix, elle décrochait du mur, puis elle mettait ça dans le tiroir, jusqu'à temps qu'elle mettait Jésus en punition, parce qu'il ne répondait pas. Il ne répondait pas à ses prières. Et ça peut ressembler à ça des fois. Hein? Je me sers de la prière comme un instrument pour que Dieu fasse à ma volonté à moi. Tandis que la prière, c'est le contraire. C'est le moyen que Dieu a pour que moi, je fasse sa volonté. Pour que moi, je me plie à sa volonté. Hein? Que nous soyons à son service. Toutes mes pensées, que toutes mes pensées, tous mes désirs, ça s'harmonise avec la pensée de Dieu, avec le désir de Dieu, avec la volonté de Dieu. C'est ça la prière. Me mettre en harmonie avec Dieu. Avec ses pensées, avec ses désirs, avec ses émotions. Je pense comme Dieu pense. Et Dieu, la pensée de Dieu, c'est ma pensée. Hein? Je désire ce que Dieu désire. Et le désir de Dieu, c'est que c'est ce que je désire. C'est ça la prière, une harmonie, me mettre en harmonie avec la volonté de Dieu. Et il y a des choses qui appartiennent à Dieu, il y a des choses qui m'appartiennent là-dedans. Alors, on termine avec Éphésiens 3:20, que ça a été cité hier dans le témoignage de... Oups! J'ai fermé quelque chose, ça m'énerve. Ah! Éphésiens 3:20. À celui qui, par la puissance qui agit en nous, personnellement puis en tant qu'Église, peut faire infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons, à lui la gloire dans l'Église et en Jésus-Christ, dans toutes les générations, au siècle des siècles. Amen. Est-ce qu'on comprend ce qu'on a lu là? Celui qui peut faire infiniment de tout ce que nous pensons, ou imaginons, ou rêvons, ou espérons, à lui la gloire. J'aimerais qu'on, avant de prendre le repas du Seigneur, est-ce que vous avez eu des surprises, comme les disciples qui étaient réunis? Avez-vous eu des surprises dans votre vie? Là? Peut-être en 2016, mais dans votre vie, avez-vous eu des surprises? Et est-ce qu'on s'attend à des surprises en 2017? Quelles seraient les surprises qu'on s'attend en 2017? Alors, je vous donne la parole quelques minutes. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a vécu une intervention de Dieu, là, qui était miraculeuse, qui était vraiment spéciale. Je pourrais vous en raconter, mais j'ai assez parlé. Je vais vous laisser parler.